Bonjour et bienvenue dans « Et si c'était vrai ?» Et si c'était vrai, podcast entièrement consacré à l'univers magique de Dominique Duvivier. Dominique Duvivier, bonjour.
Bonjour.
Très content de vous retrouver pour ce podcast numéro 17, me semble-t-il. Et pour ce podcast numéro 16 ou 17, c'est plutôt 16, j'aimerais qu'on aborde, vu qu'on a abordé dans le podcast précédent, on a commencé à aborder vos sources d'inspiration. Et quelque part, il n'y a pas loin entre les sources d'inspiration et la volonté de toujours vouloir repousser les limites, de toujours continuer de plaire, de toujours vouloir continuer de surprendre. Alors, c'est un vaste thème. Aujourd'hui, Dominique Duvivier, est-ce que vous avez des doutes ou des angoisses sur cette capacité qui est la vôtre à repousser les limites ou à continuer de pouvoir surprendre ?
Des doutes, tu sais, on en a toujours. Quand on n'a pas de doute, c'est qu'on est mort quelque part, je crois. Malheureusement, je vois des gens qui n'ont pas de doute. Hein. Mm-hmm. Je les plains. Même si ce sont mes ennemis, je les plains. Moi, j'ai cette chance d'avoir toujours des doutes, mais pas des doutes non plus négatifs. Ça peut être bizarre de dire ça, comme ça. Un doute, ça peut être forcément que négatif. Oui. Moi, je crois pas. Je crois que ça fait partie intégrante de la recherche, de la nature même d'un artiste. Quand tu es... surtout que moi, je suis artiste, mais je suis magicien, et je suis créateur, et je suis aussi manipulateur. Donc ça fait beaucoup de casquettes, tu vois. Et dans chaque casquette, il y a de toute façon les doutes. Pour prendre la casquette manipulateur, je crois que c'est celle-là dont tu, à mon avis, tu fais le plus allusion, pour étonner toujours mon prochain. Bon, j'ai une chance quand même, c'est d'avoir publié beaucoup, mais d'avoir publié très peu par rapport à tout ce que j'ai trouvé. Vu que j'ai trouvé beaucoup.
Oui.
Ça veut dire que j'ai pu voir par-ci, par-là, des choses que j'avais imaginées, que je n'ai pas publiées, mais que j'ai vues plus ou moins dans les mains d'autres personnes, parce qu'elles les ont trouvées à leur tour. Et ça m'étonne qu'à moitié, parce que quand tu trouves quelque chose, souvent, elle est un peu dans l'air. Donc c'est toi qui la captes en premier ou pas. Mais plus les années ont passé, plus ma recherche dans la manipulation, dans la réflexion, mais dans le tour même, là, dans la recherche de la méthode ou de l'effet, plus les années ont passé, plus j'ai trouvé des pistes très complexes. Et l'intérêt, pour justement pas avoir trop de doutes, même si j'en ai, de la complexité de mes tours, c'est que je suis assuré que personne n'ait pu trouver ce que j'ai trouvé, vraiment, depuis plusieurs années. Mm-hmm. Parce que c'est pas un effet, tu vois, je vais dire un truc, un lieu commun. Inventer Twisting the Ice, c'est pas évident, parce qu'il y a quand même beaucoup d'effets. Mm-hmm. Mais le concept est simple. Quatre as face en l'air, qui vont se retourner. Ou quatre as face en bas, vont se retourner. Mm-hmm. Maintenant, comment on retourne ces as? Alors, on peut les retourner à la façon Lee Asher, qui a été assez moderne il y a quelques années. On peut la retourner façon Vernon, avec l'aide indirect ou direct de Hamsley. Mm-hmm. Mais c'est des méthodes pour retourner les as. Mais l'idée de l'effet, c'est des as face en bas qui se retournent. Si moi, mon effet, c'est... Je monte 4 as. Les cartes sont face en bas. Magiquement, ils se retournent. Magiquement, elles se retournent. De nouveau. Maintenant, ce sont des rois. Je les retourne, elles n'ont plus les mêmes dos. et je les retourne, elles ont des faces blanches. Et quand je vais pour les donner à examiner, j'ai plus rien, j'ai moins de chance que quelqu'un ait trouvé ça.
Oui, en effet.
Évidemment, là, ce que je viens de te dire, je viens de l'inventer en te le disant. Et c'est un truc que je ne veux même pas faire. Tout ça pour dire qu'on peut aller dans le complexe très vite.
Oui.
Maintenant, comment réaliser, c'est une autre paire de manches. Tel que je viens de le dire, c'est bien, mais bon, maintenant, il faut le faire.
Oui.
Et c'est ça qui va être intéressant. Mais où va être mon doute si j'ai trouvé cet effet-là, que je viens de nommer à l'instant? Bah, dans la méthode. Est-ce que les mouvements que je vais avoir trouvés, ou choisis, ou récupérés d'autres auteurs, est-ce que je vais bien les exécuter? Est-ce qu'ils seront adaptés à l'effet que je viens d'imaginer? Est-ce que je pourrais, en d'autres termes, mener à bien l'œuvre que je viens de me mettre dans la tête? Si on peut dire à peu près oui, bah, j'aurais pas à avoir trop de doutes sur le résultat final devant les yeux des spectateurs, magicien ou non. Si finalement mon truc, c'est une nouvelle méthode qui me semble pas forcément révolutionnaire pour retourner quatre cartes face en bas, face en l'air, j'ai plus de mourons à me faire, donc plus de doutes. Tu vois un petit peu l'idée?
D'accord, oui, je vois. Ce qui fait que ça nous amène à la phrase que vous avez citée dans le podcast précédent, on s'arrête toujours de penser trop tôt, la fameuse phrase de Dave Hernon. Vous, là, on vient de voir, vous avez pris le twisting the aces, qui est un concept classique en magie, qui est très fort à la base, des as qui se retournent ou des cartes qui se retournent magiquement. Et instinctivement, quelque part, vous en avez fait autre chose, vous êtes allé plus loin, et c'est votre méthode de pensée qui est comme ça.
Oui. Moi, ouais, comment j'ai commencé à découvrir? Parce que je me suis pas dit, tiens, je vais faire un inventeur de tours. Je n'ai jamais dit ça. Au départ, mon idée, c'était de faire des tours. Alors, si on parle de tours de cartes, enfin de la magie avec des cartes, moi, ce que j'avais envie, c'était des trucs... je ne savais pas bien quoi, très franchement. Mais ce que j'avais envie, c'est des trucs colorés, des trucs qui se transforment à mort. En gros, sans le savoir, j'espérais que quelqu'un ou des quelqu'un et trouver ce que je cherchais à simplement exécuter. Et j'ai eu la chance de rencontrer Brother Hammond. Et quand j'ai vu Brother John Hammond, du point de vue créatif, il a comblé tous mes vides. D'accord ? Et le même jour ou le lendemain, j'ai rencontré Caps, et le même jour ou le lendemain, j'ai rencontré Ricky Jay et Derek Dingle. En d'autres termes, et Gauchemann était dans le même secteur, puisqu'il était dans le même congrès. Je ne sais pas si tu te rends compte. Et ben, moi, je te parle des autres aussi. Il y en a, je ne parle pas des autres, mais il y en avait d'autres aussi, qui étaient bons à ceci, bons à cela. Mais là, je te parle déjà de sommités, tu vois, qui sont tous jeunes, à part Gauchemann, qui était un peu moins jeune, et effectivement, pendant John Hammond. Mais la jeunesse de sa recherche à Hammond, c'est exactement ce que je cherchais, moi.
Oui.
Micro-macro, hallucination, et je t'en passe et d'autres. C'était ça que je voulais.
Avec une modernité dans les techniques étonnantes.
En plus, des techniques à lui, c'est pas parce que c'était des techniques à lui que c'était bien, c'était vraiment novateur.
Novateur.
Quand j'entends parfois des gens maintenant presque me reprocher de faire le comptage à main, tu sais où tu prends 1, 2, 3, 4, tac, tu fais un filage et tu montres encore 4 cartes. Je ne sais pas comment ça s'appelle en américain. Il y en a qui critiquent en disant, oh, de toute façon, c'est un tour de... C'est une technique de Hammond, mais même Hammond lui-même ne le faisait pas. Genre, je suis un demeuré de faire ça. Je suis désolé, moi je peux te dire que j'utilise toujours la technique que j'ai remasterisée sur certains effets, mais que je fais des fois brute comme celle de Hammond. Bah, quand je la fais dans un spectacle, je peux te dire que les gens, ils pâlissent. Hein.
Bien sûr.
Pas de la technique, mais de ce que ça en fait.
Bien sûr.
Donc si on ne l'utilise pas, bah, je trouve qu'on a tort. Mais en même temps, c'est parfait. Hein. Si personne ne veut la faire, moi je la fais, je suis très content. Mais tout ça pour dire que quand j'ai eu Hammond, pour revenir à la création, bah, pour moi, c'était bon. Quoi. J'allais maintenant essayer d'apprendre les tours du frère Hammond. Et puis, ben, j'allais être comblé. Sauf que très vite, ça c'était en 73, j'ai cru qu'il avait inventé en plein d'autres choses. Mais j'ai vu aussi que non. Enfin, il avait trouvé plein d'autres choses, mais pas forcément des choses qui me plaisaient pour moi.
Oui, oui.
Et c'est comme ça que j'ai cru qu'il aurait pu être capable, par exemple, d'inventer l'imprimerie, que j'ai trouvé un peu plus tard, quelques mois plus tard. Mais c'est grâce à Hamann que j'ai eu l'idée de ça. Moi, quelque part, pour moi, c'était un aboutissement de ce que faisait Hamann. Sauf que j'ai vu qu'en fait, c'était le départ de ma façon de réfléchir. Et c'est comme ça que j'ai vu aussi, quand je faisais des tours de Pierre Peloujac que Freddy Pham montrait chaque mois, rien que le fait qu'il me le montre, que je le mette dans mes mains pour le montrer à Bernard Bélis ou à Sanver ou à d'autres à l'époque, parce que c'est moi qui souvent montrais ces tours-là aux autres, je ne me rendais pas compte, mais je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Déjà, j'avais digéré ce que Freddy m'avait montré, et sans le faire exprès, déjà, en le remontrant, j'avais mis ma patte. C'était pas exactement le truc tel qu'on me l'avait montré. Et c'est de ce genre de processus de transformation, sans même avoir la conscience de changer le tour, que je me suis dit, ah bah tiens, en fait, mais pourquoi j'essaierais pas, au lieu de prendre le tour de Pierre, Paul ou Jacques, bah de travailler sur un principe à moi, un effet à moi, une technique à moi, plutôt que de prendre les trucs et puis de toute façon, dès que j'y touche, déjà, c'est plus pareil. Je m'en rendais compte à force, tu vois. C'est comme ça que j'ai vu que je devais avoir en moi un besoin réel de transformer les choses, quoi.
Et ce besoin, il est toujours présent en vous?
Ah oui.
Toujours. Donc là, toujours au quotidien, vous êtes sur assis à votre bureau et vous travaillez?
Ouais.
Tout le temps.
Tout le temps.
Et ce processus créatif, il est alimenté par ce que vous voyez. C'est marrant parce que on parlait de se donner le temps dans l'émission précédente. Et là, avec du besoin de temps, du besoin de calme, etc., elle venait de citer capter l'air du temps, et quelque part on retombe sur nos pieds. Pour pouvoir capter l'air du temps, il faut se donner à soi le temps de pouvoir observer. Et c'est vrai qu'inventer des techniques, peut-être parce qu'à un moment donné, elles planent, et que vous arrivez à les saisir, mais d'autres peuvent les saisir en même temps ou avant vous.
Oui. Ben, je dirais que c'est la règle du jeu. Et encore une fois, moi, même si on ne peut pas le croire, même si j'ai trouvé beaucoup de choses et que parfois j'en parle, ou souvent j'en ai parlé, j'ai trouvé X milliers de tours, X machin, truc, c'est juste pour montrer un petit peu que je ne suis pas à me tourner les pouces dans mon coin. Mais très franchement, comme je te l'ai dit à un autre moment, c'est plus un trop-plein dans ma tête, tu vois, que j'essaie d'évacuer, pour essayer de trouver le geste, le mouvement. Je me rappelle, j'avais vu une bande dessinée, il y a très longtemps, dans du temps où je lisais Pilote, où chaque semaine il y avait plein de merveilleuses choses, du temps où c'était Goscinny qui était le rédacteur en chef. Et on voit à un moment donné, bon, je ne saurais plus te dire quel était l'auteur qui avait fait cette planche, j'avais trouvé ça génial. Tu vois un mec, il est visiblement sculpteur, et il regarde un bout de pierre, donc qui est vraiment une pierre sans avoir été façonnée du tout. Il la regarde. Ce sont plusieurs planches, tu vois. Et à un moment donné, il prend son petit piolet, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, marteau, et le mec, il va mettre le coup ultime, tu sais. Il fait... Et une seule fois, et schlaf, il y a tout qui tombe, et t'as une sculpture d'une nana à poil super top. Tu vois, je trouve ça génial, ça, tu vois. Ce côté que le mec, il réfléchit, et en fait, avec un seul coup de marteau,
oui.
Là, la beauté.
L'aboutissement.
Tu vois. Et quelque part, moi, c'est ce que j'essaie, que je poursuis, que je crois pas arriver d'ailleurs, mais je poursuis le geste,
oui.
L'effet, le moment, tu vois.
Et c'est, alors, vous êtes un peu comme ces, je sais pas, ces écrivains, Balzac, Hugo, qui écrivaient énormément, bah parce qu'ils avaient toujours l'impression de ne pas avoir écrit le livre qui leur correspondait vraiment.
Ouais, bah c'est là, moi, à mon faible niveau, encore une fois, même si on croit que je suis très imbu ou prétentieux ou je sais pas quoi du genre, moi je suis un chercheur, et vraiment je suis obnubilé par la recherche. Et c'est vrai que, même si au bout d'un moment je suis content, dès que c'est fait, je suis plus content.
Oui.
Parce que je me dis, oui, mais j'aurais peut-être pu penser comme ça. Mmh. Et là, c'est reparti, quoi. Tu vois. Mmh. Pour ça que pour moi, quand je te disais dans une autre émission, il y avait Alexandra, qu'à un moment donné, on décide d'arrêter.
Oui,
c'est une déchirure. Maintenant, on va en être à jouer.
Oui.
C'est vraiment une déchirure, comme oui. Tu dis. Parce que pour moi, c'est toujours en mouvement, quoi.
Et c'est quand même, enfin, j'ai l'impression, après vous me dites si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que c'est là où vous vous sentez le mieux,
quand
quelque
j'arrête.
Part. Non, quand vous êtes dans ce processus
ah oui.
De recherche.
Ah oui, moi je vois souvent Alexandra, elle me suit et tout, puis on s'entend bien, enfin bon, on va pas revenir là-dessus. Mais je vois que, par moments, je la vois sourire, tu vois, elle me dit, qu'est-ce que tu fais ? Bah je dis, et elle me fait, ah bon, tu t'es remis sur ce truc-là, tu vois, parce que pour elle, c'était largement très bien, tu vois. Mais oui, mais parce qu'il y avait un petit détail qui me chiffonnait, comme Columbo, tu vois. Mm. Et après, souvent, on va pas dire toujours, mais quand même souvent, elle me dit, ouais, bon, t'as raison, là, c'est vraiment mieux. Mais, en même temps, c'était très bien.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est vraiment mieux après. Parce que je recherche toujours... Le côté, tu vois, entre guillemets, ne nous méprenons pas sur ce que je vais dire, je cherche la perfection, quoi.
Oui.
Et la perfection, bah, pour moi, contrairement à d'autres, c'est pas faire 3000 mouvements en disant, t'as vu, j'ai rien fait. Moi, ce que je vois ou ce que j'entends, par exemple, sur le saut de coupe, on a déjà parlé il y a longtemps, bah, je suis désolé, pour moi, un saut de coupe, il doit pas se voir, il doit pas se sentir, il doit pas se supposer. Moi, je ne vois pas des gens faire des sauts de coupe qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas et qu'on ne suppose pas. Je ne te dis pas que quand je fais quelque chose, les gens pensent à rien d'aucune façon, d'aucune manière. Mais j'ai l'impression qu'on pense quand même moins que je magouille que quand tu vois le mec qui fait « schlappa ». Et puis, en gros, soi-disant, il n'a rien fait. Pas déconner, quand même. Alors, ce n'est pas que j'aime pas le principe. Mais ce qui m'ennuie, c'est qu'on soit forcé de faire « schlappa ». Pour dire qu'on n'a rien fait.
Ouais.
Sans compter que tu ferais une petite double coupe ou une triple coupe. Tu viens quand même de montrer aux gens que tu perds la carte, mettons, dans le jeu. Et bah, c'est quand même mieux que de faire croire que tu n'as rien fait. Ouais. Parce que si tu n'as rien fait, c'est susprout. On ouais. Peut pas dire suspect. Tu vois ? Alors qu'au moins, tu prends la carte, tu la perds dans le jeu, bordel. Donc tu la perds. Ouais. Tu vois ?
Oui.
Moi, je trouve que c'est plus sain, d'un point de vue logistique, de prendre une carte et de montrer que tu la perds, que de mettre la carte et de la laisser telle qu'elle, comme, sans rien faire. Mm-hmm. C'est bizarre que tu fasses rien. Mais tu fais pas rien, tu fais schlapout. Tu vois, donc, moi, c'est ça qui me chiffonne. Je suis tout à fait d'accord, si un jour je vois quelqu'un où vraiment, toi, je me dis, putain, qu'est-ce qu'il a fait ? Et que le mec m'explique, et il me dit, bah, je fais un saut de coupe. T'as fait quoi ? Et que je découvre qu'il a fait un saut de coupe, alors que je ne l'ai pas pensé, pas vu, pas supposé, ah bah là, je vais essayer de faire le saut de coupe.
Oui. Je vois.
Tu vois ?
Et alors, ce qui est marrant, c'est que vous poussez le vice, en plus avec le texte, à dire, je fais semblant de la perdre, souvent. C'est souvent
ouais.
Un de vos.
Oui, oui, oui. Bah oui.
Ça me fait rire parce que c'est très drôle cette phrase en fait.
Ouais.
C'est parce que, quelque part, le saut de coupe, même si en effet le mouvement techniquement est sensationnel, moi je trouve que c'est vraiment un très beau mouvement, très
le
beau geste, le saut de coupe.
Ah oui, tout à fait, je suis d'accord.
C'est quelque chose qui est d'une.
Mais c'est vrai que là, je ne sais pas si c'est là où tu veux m'amener, mais je reconnais d'avance, si c'est ça ta question, que l'intérêt du saut de coupe, c'est que tu perds par exemple une carte et tu fais rien. On est bien sûr qu'on est dans les apparences, parce moi je pense que tu fais quelque chose, parce que je viens de voir, je chlapoute. D'accord ? Mais on peut partir du principe que le spectateur ne chlapoute pas visuellement ce que tu viens de chlapouter. Peut-être. Alors que quand tu perds la carte en jeu, je me sens obligé de dire, et je fais semblant de la perdre, parce qu'à mon avis, quand le spectateur voit un magicien qui perd une carte dans le jeu, que tu la perdes vraiment ou pas, de toute façon, il croit que tu ne la perds pas. Donc, je vais dans son sens, je fais semblant de la perdre.
Pour pas faire passer des vessies pour des lanternes.
Voilà, parce que je pense, encore une fois, mon fameux terme dont on a parlé aussi l'autre fois, démystifier pour mieux mystifier, je pense plus intelligent de dire, et je fais semblant de la perdre, j'espère pas, hein, mais on sait jamais, et tiens, poum, poum, et après je fais mon truc, et après j'enchaîne sur l'effet que j'ai décidé de faire. Je pense que je lui enlève plus l'idée que j'ai triché, si je lui dis que je triche, que si je lui dis, ou que je prétends, que je ne triche pas.
Et vous le détendez en même temps, parce que vous le faites rire, et vous le faites évacuer, espèce de doute, de vouloir, enfin cette volonté qu'ont les spectateurs, c'est normal, puisqu'ils sont là pour voir de la magie, donc ils ont envie d'être étonnés, mais ils observent quand même.
Voilà, ils ont envie d'être étonnés, mais ça dépend avec quoi.
Ouais, exactement.
On est bien d'accord. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut épurer au maximum toutes les chrapouteries dont je te parle, qui sont pour moi néfastes au visuel du spectateur, au ressenti, parce que même si les Bock Twins ont révolutionné quelque part le genre avec une dextérité hallucinante dans les fioritures, voire même maintenant dans certains effets qu'ils font, mais moi je suis désolé, j'arrive même pas à comprendre comment un spectateur normal puisse être étonné quand tu vois un mec qui fait « schla-ta-ta-ta-ta-ta, clic, carte, face en l'air, schla-ta-ta-ta-ta-ta, clic, carte, face en bas, schla-ta-ta-ta-ta-ta, milieu, hop, remonter dessus. » Bah, de toute façon, quand tu vois un mec qui est capable de schlapouter gravissime à ce point, où est la magie que cette carte du milieu soit remontée dessus?
Ouais.
D'un point de vue jonglage, c'est exceptionnel. Mais d'un point de vue magique, si vraiment le spectateur est épaté avec tous les mouvements parasites, et qu'elle tourne, et qu'elle ci, et qu'elle ça, pour finalement la mettre dans le milieu et qu'elle remonte dessus, enfin, en fait, une carte ambitieuse.
Oui.
Mais avec tellement de mouvements parasites, même s'ils sont merveilleusement bien exécutés, pour moi, on perd complètement la magie.
Oui. Absolument.
Alors que même si tu es un énorme manipulateur, je pense quand même que tu fais étaler le jeu par un spectateur. Tu fais prendre la carte au spectateur et tu lui fais mettre dans le milieu. Tu lui fais égaliser. Toi, tu le mimes simplement. Tu dis, allez-y, égaliser. Et tu lui montres avec tes mains qui se rapprochent l'égalisation. Rassemblez le jeu. Donnez-moi le jeu. Mettez-moi dans ma main. Tu fais ça. Tu retournes la carte dessus et c'est sa carte. Le mec, il se pend.
Oui.
Parce que c'est pas matériellement possible.
Absolument.
Oui, t'es un manipulateur, oui, t'es un magicien, parce que t'as été capable, sans rien faire, et là, pour le coup, sans rien faire, de prendre la carte dessus et de la retourner, que ce soit la bonne, alors qu'on vient de l'avoir dans le milieu.
Ouais.
Ça, c'est de la magie.
Ouais.
Mais je prends la carte, je la mets dans le milieu moi-même, je mélange, et je la trouve, les gens vont dire, oh ouais. Genre, je ne jouerai pas au poker avec lui.
Ouais.
Mais le coup d'avant, c'est la vache. Oh. Là, d'un seul coup, il y a un silence qui va s'instaurer. Les gens vont se dire, la vache, on vient de vivre. Le mec, il vient de marcher sur l'eau, là.
Ouais.
C'est plus le même niveau.
Exactement.
Donc moi, je cherche, même si j'y arrive pas, le niveau marcher sur l'eau. Mais pas avec trucage vidéo.
Eh bien, j'espère qu'on va pouvoir continuer de marcher sur l'eau ensemble très rapidement. Pour ce moment-là, nous tournons la page de ce chapitre, donc numéro 16, de « Et si c'était vrai ?» Et puis, je vous propose qu'on se retrouve très vite.
Avec grand plaisir.
À bientôt.